Aujourd'hui, je vais vous partager le seul vêtement qui est agréable à Dieu. Je vais vous lire pour cela Matthieu 22, versets 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Moi, je vous le lis toujours dans Parole vivante. Jésus continua à leur parler au moyen de paraboles. Il leur dit, « Il en va du règne des cieux comme d'un roi qui veut célébrer les noces de son fils. Il organise un festin et envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Dites-leur, j'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Tout est prêt. Venez donc aux noces. » Mais cela les laisse parfaitement indifférents. Et sans se soucier de l'invitation, ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. D'autres encore s'emparent des serviteurs, les maltraitent et finalement les massacrent ou les tuent, c'est la même chose, hein. Le résultat est le même. Quand le roi l'apprend, il devient furieux. Il donne à ses troupes l'ordre d'exterminer ces assassins et de mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais ceux que j'avais invités n'étaient pas dignes de venir. Allez donc sur les places d'où partent les rues principales, parcourez les chemins et invitez au festin des noces tous ceux que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, mauvais et bons, de sorte que la salle de fête se remplit de monde. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici ?»« Sans être habillé comme il convient pour un mariage. » L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux gens de service, « Prenez-le et jetez le pied et point lié dans les ténèbres de dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. » D'autres versions disent des grincements de dents. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux, ou ceux qui sont élus sont peu nombreux. On ne va pas rentrer dans le détail de cette parabole, mais on va s'arrêter sur les habits. Cette parabole nous raconte l'histoire d'un roi qui a fait des noces, puis là, il a aperçu cet homme qui n'avait pas d'habits de noces. Et puis, il en a fait la remarque, puis cet homme fut mis à la porte, pieds et poings liés. Vous trouvez peut-être ce roi trop sévère, c'est vrai, mais soyons réalistes. Hein. Quelle que soit notre position matérielle, sociale, il ne nous viendrait jamais à l'idée de nous rendre à un mariage vêtu n'importe comment. Déjà par respect ou par simple politesse à l'égard de ceux qui sont invités, de ceux qui nous ont invités plutôt, on prendrait la peine de mettre un habit de circonstance, ou on s'habillerait selon ce qu'il y a sur l'invitation, parce que des fois sur les invitations, ils demandent de mettre des habits, pas du Moyen-Âge, mais des vieux habits, ou que sais-je encore, ce qu'ils ont décidé. Enfin bref, on met un habit de circonstance. Et maintenant, on va faire ce parallèle, justement, que voyons quels sont les vêtements, parce que beaucoup disent autour de nous, et même parmi les enfants de Dieu, on met certains vêtements pour s'approcher de Dieu. On peut s'approcher de Dieu avec nos propres moyens, nos propres vêtements. Et là, il y a 6 vêtements que Dieu n'accepte pas. 6, c'est le chiffre de l'homme. 666, c'est le chiffre de la bête de Satan. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Le premier vêtement qu'on peut essayer de mettre pour se présenter devant Dieu, c'est les richesses, le tout premier vêtement. Bien des personnes pensent que les richesses sont un excellent moyen de plaire à Dieu. Elles en amassent, ou en étalent le plus possible. Voyez, je suis riche, donc si je suis riche, c'est que je suis béni. Que nous le dit l'Écriture à ce sujet ? Proverbe 11, 28 nous dit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. » Jacques 5, 1 à 3 « Maintenant faites attention, vous riches, pleurez, criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie, les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent, et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir, pourtant vous conservez des richesses en réserve. Et même vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles. Les gilets jaunes, hein ? Il semble qu'on les entend. De Dieu le Seigneur Tout-Puissant, sur la terre vous avez vécu au milieu des richesses, vous avez fait ce qui vous plaisait, vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient. On pourrait continuer, continuer, il y a beaucoup de textes. Après avoir entendu cela, vous admettrez que ce serait vraiment pas convenable de se présenter devant Dieu avec une telle tenue. Hein? Et puis, le Créateur des cieux et de la terre, il n'a que faire de nos richesses, de nos trésors qui sont tous périssables. Au contraire, il nous dit de investir dans les cieux, dans les richesses du ciel. Là, il n'y a ni rouille, ni teigne, il n'y a rien qui atteint. Et puis la richesse, lui, toute la terre lui appartient alors. Comment est-ce qu'on veut se présenter avec de l'or, de l'argent devant lui ? Premier habit ne sert à rien. Dieu ne le regarde pas, ne le considère pas. Deuxième habit, c'est la justice personnelle. Certains déclarent « Moi, j'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait de mal à personne. » Vous avez déjà entendu ça ? Oh, nous, on le dit des fois aussi. Hein? C'est vrai. Ils sont, tous ces habits, c'est pour essayer de plaire à Dieu. Même nous, on les revêt quelquefois. J'ai toujours suivi les commandements de Dieu. Quelle prétention! La Bible nous dit que celui qui pèche contre un seul commandement devient coupable de tous. En pensée, hein? Qu'est-ce qu'on a des sacrées pensées qui vagabondent? Jacques 2,10 nous dit, en effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, il serait néanmoins un transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pèche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. La loi est là pour nous conduire, c'est un pédagogue, mais nous n'avons pas à accomplir la loi. Christ l'a accompli à notre place, puis savait pertinemment qu'on n'était pas capable d'en accomplir un seul. Romains 3, 10 nous dit « Aucun être humain n'est juste, même pas un seul. Personne n'est intelligent. Personne ne cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ils sont tous corrompus. Personne ne fait le bien, même pas un seul. » Et plus loin, c'est encore pire. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Avec leur langue, ils trompent les autres. Sous leurs lèvres, c'est le poison de la vipère. On le sait que la langue, hein? La langue vient du malin. Elle est contrôlée par le malin. La bouche est pleine de malédictions, de paroles blessantes. Avec leurs pieds, ils courent rapidement pour aller tuer. Ils détruisent tout sur leur passage. Ils sèment le malheur. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. C'est notre monde actuel, on se voit. Dans la parole de Dieu, ça a été écrit il y a 2000 ans, puis il semble que c'est actuel. Hein? Pourtant, nous le savons, tout ce que la loi dit, elle le dit pour ceux qui doivent obéir à la loi. Alors personne ne peut donner d'excuses et le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend juste sans la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché. Pouf, tiens, je suis dedans. Tous. Pas même un seul n'est capable. On est tous privés de la gloire de Dieu. Cette loi précise par nature que nous sommes tous impurs, que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Voyez ? Notre justice personnelle, on veut se présenter. Ah, moi j'ai fait du bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis un Suisse au bras noueux. Ah non, c'est ici. Hein ? On veut se justifier. Non, on ne peut pas. Donc ce n'est pas difficile de comprendre que nous ne pourrons pas être admis dans la présence de Dieu couverts de vêtements souillés ou avec notre propre justice. Troisième vêtement, la sagesse personnelle. À notre époque, si évoluée, combien de nos semblables se plaisent à parader dans les atours de la sagesse. Et Salomon, le plus sage des rois, donnait ce conseil dans Proverbes 3, 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Romains 12, 16 nous dit que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Est-ce qu'on en connaît des qui savent tout mieux que les autres? Moi, je l'ai dit, je connais pas mal. Puis des fois, moi, il me semble que je connais mieux que les autres aussi. Hein. Voyez, j'ai mis cet habit de la sagesse personnelle. Ça m'arrive encore. Voyez le boulot qu'il a, Dieu, avec moi. Je ne veux pas dire avec vous, parce que je sais que vous êtes fait de la même trempe que moi. Donc, je pourrais sortir mon appareil photo pour prendre celui qui n'a pas de sagesse personnelle. Ne vous croyez ni meilleur, ni plus sage que vous l'êtes, et n'ayez pas l'autocuidance de penser que vous avez déjà tout compris. C'est fou ce que la parole est actuelle. Hein. C'est fou. Ouais, ben, je ne vais pas faire trop long, parce que j'avais encore mis quelques versets, mais ça ferait trop long. Alors, je passe au quatrième habit. C'est la science humaine. Les atours de la science au jour d'aujourd'hui, qui du reste, elle est limitée. Hein. Plus ils découvrent, moins ils connaissent. Et cette science, elle est toujours limitée aux choses d'ici-bas. Elle n'a aucun poids dans la balance de Dieu. Aucun poids, cette science. Et pourtant, beaucoup de scientifiques se tardent de connaître beaucoup de choses. Mais c'est étonnant, ils ne veulent jamais reconnaître Dieu. Hein. C'est fou. Toutes sortes de choses. Ésaïe 44, 25 nous dit « Maintenant, j'enlève leur pouvoir aux paroles des devins. Je fais dire n'importe quoi à ceux qui annoncent l'avenir. » Je ferme la bouche des sages et je prouve que leur science est stupide. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Hein. 1 Corinthiens 13, 2 nous dit, si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan, être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes, mais sans amour, je ne suis rien. Un airain qui résonne, je ne suis rien. 1 Timothée 6, 21 nous dit, ô Timothée, garde intact le dépôt de foi qui t'a été confié. Ferme tes oreilles aux discours creux et impies, aux arguments contradictoires de ce qui s'appelle science ou connaissance. Mais n'en mérite pas le nom. Ne t'occupe pas des objections, des subtilités de gens qui se targuent à tort de leur savoir ou de leur illumination. Il y a combien d'illuminés au jour d'aujourd'hui, même parmi des chrétiens. Ils ont des visions qui auraient besoin de révision souvent, hein, selon la parole de Dieu. Car elles sont contraires à la foi. pour s'y être attaché à ces fables, à ces soi-disant sciences, plusieurs se sont égarés bien loin de la foi et ont fini par manquer le but. Que la grâce soit avec vous tous. Tout ce que je vous lis, c'est des textes bibliques, c'est dans la parole, vous pouvez le contrôler. Bon, là, c'est la version moderne, pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Moi, j'ai besoin de comprendre un peu mieux. Des fois, des vieux textes, c'est un peu de la peine, avec des vieux mots de grammaire. Voilà, parce que moi, je ne suis pas un intellectuel. C'était un manuel, alors j'ai besoin de comprendre. Proverbe 22, 17 nous dit « Incline ton oreille, écoute les paroles des sages et applique ton cœur à ma science, à la science de Dieu, à la sienne. » Ça n'empêche pas qu'il donne des dons aux hommes, qu'il y a des sciences, oui. Mais ce qui compte, ce n'est pas de mettre cet habit-là pour se présenter devant Dieu, parce que Dieu ne sait qu'en faire. Cinquième habit, vous supportez encore? Oh, ça fait que 20 minutes, alors ça va. Cinquième habit, la culture ou la connaissance. C'est pourtant très utile, vous allez me dire. C'est même indispensable, la culture et la connaissance. Mais les diplômes les plus prestigieux, les titres les plus honorables n'ont jamais ouvert la porte du ciel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de diplôme, ce n'est pas ça. Mais si on veut prendre ça pour s'approcher de Dieu, ça ne nous ouvre aucune porte. Ça ouvre les portes ici, terrestres. Oui, des diplômes sont nécessaires. Oui, des études sont nécessaires. Si vous avez la possibilité de les faire, faites-les. Moi, je regrette que je n'ai pas pu en faire, mais bon. Maintenant, 1 Corinthiens 18, 1 nous dit « Une question épineuse. Passons à la question des viandes sacrifiées aux idoles. Nous sommes tous des gens éclairés, dites-vous. » Et nous possédons la connaissance voulue. Voilà, on parle de la connaissance. C'est entendu, mais la connaissance seule inspire souvent des sentiments de suffisance. Le savoir rend orgueilleux, tandis que l'amour est constructif. C'est lui qui bâtit l'Église, parce que celui qui aime aide les autres à croître dans la foi. Tandis que si on est imbu de culture et de connaissance, on n'aide pas les autres à croître dans la foi. On se sent supérieur. Si quelqu'un croit savoir plus que les autres et se flatte de sa science, il n'a pas encore compris de quelle nature est la vraie connaissance. Le verset 3, « Mais si quelqu'un aime Dieu, il a atteint la perfection de la connaissance, car alors il est connu de Dieu, Dieu lui-même l'enseigne. » Voilà la vraie connaissance. Voilà la vraie culture, c'est la parole de Dieu. On a tout dedans, il ne manque rien. Donc, dernière œuvre, la sixième, que beaucoup considèrent comme la meilleure, le meilleur habit, le meilleur vêtement, c'est les bonnes œuvres. On va venir aux bonnes œuvres. D'autres aiment à se parer du vêtement de leurs bonnes œuvres, prétendues véritables ou méritoires. Combien disent « Ah, moi je fais des bonnes œuvres, je mérite d'être au ciel. T'as vu toutes ces œuvres que j'ai faites, Dieu ne peut pas faire autrement que de me prendre. » C'est vrai, il y en a même qui prient pour que certains qui ont fait des bonnes œuvres qui ne restent pas au purgatoire, qui n'existent pas. Mais enfin, ça c'est l'homme qui invente tellement de choses. Les plus, Ésaïe 44, 9 nous dit « Les plus belles œuvres ne servent à rien. » Ben, moi, je connais une personne qui fait un tas d'œuvres, puis que j'ai dit que ses œuvres, elles ne servent à rien, elle se fâche. J'ai dit, bon, ma fille, on lira ensemble la Bible, puis tu verras ce que Dieu dit. Et l'apôtre Paul confirme dans Galates 2, 16, « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés juste sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Tite 3, 5 à 8, puis après on conclura dans 5 minutes. Ne regardez pas si je prends 5 minutes et demie, tant pis. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées parce qu'il est juste, Mais s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Du même coup, nous sommes devenus ses héritiers, promis à une vie qui ne finira jamais. Oui, telle est notre espérance. Ce sont là des paroles sûres. C'est un message entièrement digne de foi que je veux que tu l'attestes avec une entière conviction. Là, c'est Paul qui parle à Tite. Ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à progresser pour exceller dans l'accomplissement du bien. Que les fidèles aient à cœur de devenir maîtres dans la pratique des œuvres bonnes. Voilà quelles œuvres qu'on doit faire. Les œuvres préparées à l'avance que Dieu nous donne de faire. Une telle ambition est non seulement belle et bonne en elle-même, mais elle est encore utile aux autres. Vous voyez, les œuvres que Dieu a préparées de l'avance, c'est pour le bien des autres. Elles sont utiles à l'autre. Donc, on a vu ces six vêtements qui ne sont pas agréables à Dieu, mais quel est le vêtement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans l'Ancien Testament, on apprend qu'en signe de repentance, les Israélites avaient pour coutume de déchirer leurs vêtements. Vous rappelez ces passages? Ils se jetaient même de la terre sur eux. Voilà ce que nous devons faire spirituellement parlant, bien entendu. Je ne vous demande pas de déchirer vos vêtements. Oh, quelquefois, on a des vieux vêtements qu'on peut déchirer, oui. Ils avaient coutume de déchirer le vêtement. Voilà ce qu'on doit faire spirituellement parlant. Déchirer les vêtements de notre richesse qu'on a vue, de nos mérites, de notre sagesse, de notre orgueil, de nos œuvres, de toutes nos prétentions. Voilà le vêtement qu'on doit mettre. Lorsque le fils prodigue est revenu près de son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Quand Job a reconnu la grandeur, la toute-puissance de son Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi. Je me repens dans la poussière et dans la cendre. » Voilà ce qu'il disait dans l'Ancien Testament. Voilà ce que nous devons dire à Dieu. Avant toute autre chose, Seigneur, j'ai péché, je suis coupable, je me repens. Attention, hein. Va pas te repentre, mais je me repens, c'est pas la même chose. C'est cela, déchirer ses vêtements. Cette condition est absolument indispensable. Il est bon de le rappeler avant la nouvelle année pour pouvoir revêtir le seul vêtement qui soit agréable à Dieu. Le seul qui nous permette l'accès dans les demeures célestes. C'est le vêtement que l'Écriture appelle le vêtement du salut en Christ. C'est l'œuvre de la croix du pardon des péchés. Comment obtenir ce vêtement? 1 Pierre 1,9 nous dit « Car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. » Romains 10,17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Hébreux 11,6 nous dit « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. » Éphésiens 2,8 « Oui, sa grâce seule est la source de notre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. » Un cadeau, un don, vous êtes d'accord, ça ne se mérite pas, ça ne s'achète pas. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour un cadeau? Ben, on ouvre les bancs, on le reçoit, et on le reçoit avec reconnaissance. Si on répond à cette invitation, alors le Seigneur va nous revêtir du seul vêtement qu'il accepte, le vêtement du salut. Et il y a un texte qui nous en parle. Rassurez-vous, j'arrive bientôt au bout. Ésaïe 61,10 nous le dit. « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de justice. Je suis pareil au jeune marié. » On revient au début du mariage. « tel un prêtre se coiffe d'un turban splendide à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Il compare le vêtement du salut à des bijoux, à un turban splendide, à une robe propre, blanche. Mais vous pourrez me dire, oui, d'accord, j'ai mis cette robe de salut, mais je peux la salir, ce vêtement, je peux le salir. Oui, oui, on a la possibilité toujours de laver dans le sang de l'agneau. C'est un peu drôle, hein, le sang s'attache, normalement c'est rouge, mais le sang de l'agneau lave, plus blanc que la neige, plus blanc qu'au mot ou bien n'importe quelle autre lessive. Hein. Et le Seigneur ne nous l'enlèvera pas, ce vêtement. Apocalypse 7, 14 nous dit, je lui réponds, maître, c'est toi qui le sais. Il me dit, ce sont les gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, et ainsi leurs vêtements sont devenus blancs. Apocalypse 22, 14 nous dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de manger de l'arbre de la vie. Dernier verset, Exode 19, 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Alors, rappelons-nous que les 6 vêtements qu'on ne peut pas présenter devant Dieu, il y en a encore d'autres, mais je me suis arrêté là, c'est le chiffre de l'homme. Les richesses, la justice personnelle, sagesse personnelle encore moins, science humaine, on peut en prendre un petit peu, mais il ne faut pas la faire valoir devant Dieu, elle ne sert à rien. Culture ou connaissance non plus, les bonnes œuvres encore moins. Alors, prenons le seul vêtement qui est agréable à Dieu et qu'on est sûr qu'il nous ouvre les portes de l'éternité, c'est le vêtement du salut en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.